La menace et la promesse de confier la vigne à d'autres serviteurs sont suivies d'une promesse d'un tout autre ordre. Le Seigneur, pour cela, dans cet évangile, cite le psaume 117. C'est son verset 22. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. La mort du Fils n'est pas le dernier mot. Celui qui a été tué ne reste pas dans la mort. Il ne reste pas le rejeté. Il est un nouveau commencement. Jésus, par ses paroles, laisse entendre qu'il sera lui-même le Fils tué. Il prédit sa croix et sa résurrection. Et il annonce qu'à partir de lui, de celui qui a été tué et qui est ressuscité, Dieu érige une construction toute nouvelle. Un temple tout nouveau dans le monde. L'image de la vigne est abandonnée. Elle est relayée par l'image du temple vivant de Dieu. La croix n'est pas la fin, mais le recommencement. Le champ de la vigne ne se termine pas par la mise à mort du Fils. Elle ouvre l'horizon à une nouvelle intervention de Dieu. Dieu n'échoue pas. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il trouve des chemins nouveaux, des chemins plus grands pour son amour. Par Benoît. C'est joli, ça, le commentaire du pape Benoît, effectivement. Comme je viens de vous le lire, Jésus prend la parabole de la vigne. La vigne, c'est l'église. L'église est une vigne. Elle fait pousser des ceps qui. C'est tout un travail, de faire le vigneron est là. Et bien sûr, donc, le Fils est arraché en dehors de la vigne. Et Jésus, il fait remarquer, il ne parle pas au peuple, il ne parle pas aux disciples. Il parle au Rogmé Talmud, c'est-à-dire au chef des prêtres. Et il ne prend dans la parabole que des textes de l'Ancien Testament qui prophétisent le Messie. Donc c'est des paroles qu'ils connaissent bien. Donc il fait une parabole exprès avec une composition où il reprend les prophéties concernant le Messie. Voilà, et la vigne, le fait d'être arraché en dehors de la vigne et tout ça, c'est continuellement dans. Donc les chefs des prêtres, ils connaissent bien tous ces passages. Ils savent que ça s'attribue au Messie. Ils savent bien sûr que c'est écrit dans la. C'est écrit, bien sûr que c'est écrit. Le serviteur souffrant, le bouc émissaire. Et d'être arraché hors de la cité, hors de la vigne. Alors Jérusalem, Israël est considéré comme une vigne. Pourquoi ? Parce que dans chaque enfant d'Israël, chaque enfant d'Abraham, il y a une grâce qui est très 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 forte et qui fait qu'ils savent qu'ils ont été choisis par Dieu pour être remplis de la grâce du Messie. Alors ils sont comme des vases d'élection, chacun. Ils sont remplis de la grâce messianique. Ça coule en eux, et ça surabonde. Et souvent, les Hokma et les Talmud, justement, à qui ils parlent, là, les témoignages qu'on en a, c'est qu'ils priaient tellement, en étant comblés de la présence d'onction, vous voyez, on a reçu l'onction tout à l'heure, J'étais tellement comblé de la présence d'onction que de temps en temps, et le Messie, se rendait du coup d'une manière sensible, très très fortement, à l'intérieur d'eux, il débordait. Et là, à un certain moment, il y avait une autorité divine, messianique, qui sortait de leur bouche, et on le repérait assez bien, parce que il y avait des phénomènes de lumière, quoi, hein, ça se voyait. Tous les enfants d'Israël avaient une grâce très spéciale, c'est pour ça qu'on parle de la vigne. Parce que l'eau, la vigne, c'est ce qui produit, donc bien sûr, ça prend rien, ce qui produit le vin. La coupe du Messie, couche Berakout, la couche Hamashiach, la coupe du Messie. Chaque juif, c'est une coupe du Messie. Tout le rituel juif, toute la prière, toute la mystique juive, ça faisait de chaque juif, depuis qu'il est petit, une coupe du Messie. L'onction. Mais ce qui avait été spécial dans l'Ancien Testament, c'est que la grâce était donnée d'une manière finalement beaucoup plus sensible en eux que pour nous. Et il y avait des. Là, par exemple, on a parlé de Nathanaël, c'était la première messe ici, hein, Nathanaël. Et Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, c'est moi que tu as vu. Et il voyait Dieu dans le Messie, et à ce moment-là, il était donc sous le figuier, ça veut dire que non seulement il est comblé de la grâce messianique, mais en plus il surabonde, et l'expression être sous le figuier, ça veut dire que c'est visible par les yeux des autres. Cette présence messianique à l'intérieur de lui, et c'est le Messie qui parle dans la lumière. Et donc il a vu le Messie, puisque c'est moi que tu as vu. Et aussitôt, d'ailleurs, il a reconnu l'onction, hein, quand Jésus lui a dit ça. Il a exactement l'onction, il l'a reconnu. C'est pour ça que tout de suite, il s'est prosterné en disant, tu es le Fils de Dieu. Il n'était pas sous un figuier. C'est une expression. Il était dans la vigne, et sous le figuier, c'est des expressions. Jésus n'est pas parti comme ça. Et puis, en téléportation, et puis voir Nathanaël à un moment donné où il se reposait sous un figuier. Il faut être protestant pour dire des bêtises pareilles. Parce que c'est du fondamentalisme de l'écriture, on prend mot à mot. On ne sait même pas ce qu'il y a dans l'écriture, on ne sait même pas ce que veut dire une expression, un mot, dans la tradition infaillible d'Israël. Donc il ne faut pas dire que les Juifs étaient un peuple qui n'était pas un peuple saint, c'était un peuple d'une grande sainteté. Et ils ne mettaient pas d'obstacle à la présence messianique en eux. L'union transformante était très forte. Donc Jésus s'adresse au Hokmé et à Talmud, c'est-à-dire au chef des prêtres et aux pharisiens, les Perushim. Ça fait bien, vous voyez, quand on dit en hébreu, ça fait mieux. Ça passe, c'est plus facile. Ça passe mieux. Les Perushim, c'est une catégorie chez les Juifs, les pharisiens, qui sont les plus intérieurs, les plus profonds. Et les Hokmé et Talmud, c'est ceux, justement, qui sont tellement possédés par l'onction messianique que ça déborde et que du coup ils sont des instruments libres de la communication de la Torah dans la bouche du Messie. Quand ils communiquent la communication de la révélation aux autres, ils ne le font pas si c'est pas la surabondance de leur contemplation messianique. Alors à ce moment-là, ils deviennent des Hokmé et Talmud, par exemple. Simeon, celui qui a consacré, c'était évidemment un Hokmé et Talmud. Et Nathanaël aussi, finalement. Quand j'étais soulevé, c'est moi que tu as vu. Donc, quand il leur parle, il leur dit, ils savent très bien que le bouc émissaire doit être arraché, le petit agneau innocent doit être arraché, le fils doit être arraché. Et ils savent très bien que le Messie, c'est le Fils. puisqu'on est rentré dans le nouvel an, 5772 du calendrier d'Israël. Dans le Hashanah Rabba, le grand prêtre, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il ne faut jamais s'arrêter de le dire dès qu'on... Parce qu'on n'a pas le sens, je trouve, de l'Ancien Testament. On ne se rend pas compte que le Messie, l'union hypostatique de celui qui sera Jésus dans le sein de la Vierge, il était présent personnellement dans l'union transformante et la surabondance de l'amour. Mais c'est à travers une onction, puisqu'il n'y avait pas encore l'incarnation. D'où le côté un peu sensible. Pas très sensible, mais quand même. Donc quand le grand prêtre, le chef des prêtres tiré au sort, rentrait dans le Kadosh HaKadosh du Beit HaMikdash, c'est-à-dire le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem, une fois par an, dans cet endroit réservé à Dieu seul, il se remettait des 8 habits pontificaux du Messie. Et on a une trace de ça quand les musulmans se kamikazent avec 8 vêtements. Parce que les musulmans, vous savez, c'est une religion créée par un rabbin juif. Et Mohammed n'y est strictement pour rien. Bon, ça c'est un autre problème. Donc tout ça pour dire que le grand prêtre rentre le jour du Hashanah Rabba, pas le jour du Nouvel An, hein, le jour du Hashanah Rabba, il rentre dans le Saint des Saints. Il fait le tour cette fois en prononçant le nom d'Allah dans un souffle. Et il porte sur le front un petit carré. Et dans le carré, un parchemin. Et le écrit sur le parchemin, en 42 lettres, le Shem d'Adonai Elohim, c'est-à-dire le nom de Dieu, en 42 lettres. Et ceci depuis Moïse. Alors vous savez quel est le nom de Dieu en 42 lettres? Je vous l'ai dit souvent. Donc le nom de Dieu en 42 lettres, c'est... Ab Elohim, O Ban Elohim, O Arkadash Elohim. Et puis, Shadaya. Alors ça veut dire, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Trois en un, un en trois. Ça, c'est pour vraiment dire que l'union transformante existait avec Élie le prophète dans la très sainte Trinité et dans l'unité et l'incarnation. Et c'est l'incarnation, enfin, la présence messianique du Christ, du Messie d'Israël en eux, la présence personnelle de son union hypostatique. Parce que vous voyez l'union hypostatique, je m'excuse pour la petite parenthèse, le Verbe de Dieu commence son union hypostatique avant que ne soit créée toute chose, ce qui s'unit à quelque chose de petit, un point infime et sanctissime. Puis après, il s'unit à son onction messianique. Alors son union hypostatique devient messianique, puis après, il s'unit à son corps. Il s'unit à son corps. Et enfin, il s'unit à son corps mystique, dans le fruit des sacrements. Il y a 4 modes différents de l'union hypostatique du Christ. Et les Juifs, ils sont dans la deuxième et dans la première, puisque ce sont des adorateurs. Il ne faut pas croire qu'ils sont nuls. Et les expériences spirituelles qu'ils ont sont tellement fortes, et du coup, il y a une extrême douceur. Par exemple, Simone Anassi, s'entendait très bien avec la Sainte Vierge pendant 10 ans. Ils ont vécu 10 ans ensemble. Hein. C'était tout à fait en affinité. Donc Jésus, souvent on oublie que, les Juifs ont tué le Christ, quoi. Ils l'ont crucifié. Donc, il y a quand même des générations et des générations qui disent les juifs, qu'est-ce que c'est, quoi? Jésus s'adresse à des gens qui sont des intimes de lui et des saints. Et il ne prend que des paroles de l'Écriture pour faire la parabole. C'est beau, ça. Donc, les Hakamah et Talmud savent, bien sûr, que si le Messie se donne, c'est parce qu'il est l'hypostase, il est la personne même du Fils. Ils le savent, ça. Les chefs des prêtres, ils le savent, bien sûr. Hein? Et puis, toute la Torah montre justement que cette douceur de l'enfant s'immolé doit être arraché hors de Jérusalem pour le salut du monde dans son sang, pour le pardon. Et on prend le sang de la douceur divine de l'agneau pour donner l'absolution une fois par an. Donc ils savent très bien, quand Jésus leur rappelle, il leur fait la parabole, il dit alors, qu'est-ce que vous en dites de ça? Et les pharisiens, je veux dire les pharisiens, les chefs des prêtres, parce que c'est important de savoir que ce n'est pas des disciples ou le peuple, mais c'est les chefs des prêtres quoi, qui sont là. Hein. Il dit, mais c'est des misérables. Jésus dit, comment ça des misérables? Vous ne savez pas que c'est marqué partout? Que le peuple d'Israël, c'est le sacrificateur du Messie. Vous le savez bien, dans toutes les prophéties. Marie était une véritable fille d'Israël. La Vierge, c'était vraiment la Jérusalem parfaite, la vigne par excellence. L'union transformante absolue, quoi. La vigne. Hein? Et bien elle a arraché son fils du peuple d'Israël, l'a mis hors de la cité, hors de la vigne, et a établi son fils comme la pierre angulaire. C'est-à-dire, la pierre angulaire, c'est-à-dire le nid incarné de la première personne de la Très Sainte Trinité. Et elle a eu cette fonction, elle ne dit pas, c'est misérable, non, elle a livré son fils. Mais elle a fait avec beaucoup d'amour, en rentrant dans la volonté du Père, dans l'onction messianique, dans l'union totale avec son offrande victimale, amoureuse, hein, éternelle. Et le pape, il fait remarquer que on passe de l'union hypostatique de Jésus dans la vigne à l'union hypostatique de Jésus dans le temple. La vigne devient le temple. La vigne devient le temple. Et c'est Sainte Anne-Catherine Emery qui dit une chose. Que quand Jésus faisait cette remarque devant les chefs des prêtres et les représentants du peuple d'Israël, il y avait des soldats qui étaient là à côté, là, des soldats romains. Et les soldats romains étaient gaulois. Ponce Pilate, qui était le procurateur, était français. Il venait de Narbonne. Hein, donc, du coup, tous ces soldats étaient français. Et je trouve ça très très joli que Sainte Catherine Emmerich dit que ceci dit que, voilà, le texte exact, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Mais voilà, maintenant l'œuvre du Seigneur, la merveille sous nos yeux. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Il a désigné les soldats. Il a désigné la France. La France, c'est le nouvel Israël de Dieu. C'est la Jérusalem spirituelle de Marie au milieu des multitudes. C'est le nouvel Israël de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Et nous, on est les gardiens du corps du Christ. Et donc l'eau n'est plus changée comme la vigne en vin, c'est-à-dire notre vie n'est plus changée en sainteté, mais notre vie est changée en hypostase de la divinité elle-même. Le passage de la vigne au temple, c'est ça. C'est Dieu qui est l'hypostase. Et nous, nous sommes la subsistance. Nous subsistons avec notre âme et notre corps spirituel. Nous venons subsister, comme dit saint Thomas d'Aquin. Nous venons subsister. La subsistance, c'est substantiel. Dans le Verbe de Dieu. C'est le passage de la vigne au temple. Et Marie, bien sûr, a tout fait pour que, qu'il y ait cette immolation. Ils l'ont tué. C'est par sa médiation qu'il y a eu l'immolation. C'est pour ça que quand vous méditerez, vous contemplerez un jour cette vérité que je viens de vous dire, vous essayez de rentrer à l'intérieur du cœur de Marie, dans sa lumière, dans la sacerdoce messianique, vous voyez, hein, ça se comble en elle de la sainteté du Messie, pour tous les temps et tous les lieux d'ailleurs. Hein. Comment avec ça, elle met toutes ses forces pour que son fils soit arraché hors de la vigne et qu'il soit tué. Et qu'il aille jusqu'à l'union hypostatique déchirée de la croix. Comment elle y a mis, j'allais dire, tout son cœur d'amour et de lumière. Et comment, ensemble, nous avons été choisis pour être le nouvel Israël de Dieu. Je vous dis ça parce que il y a tellement de gens qui disent, c'est un signe quand même que les Juifs sont revenus en Israël. C'est un grand signe. Tous les Juifs sont revenus, ils étaient pendant 2000 ans, et puis ils reviennent en Israël. Mais c'est fini. Il n'y a plus de Juifs en Israël. C'est terminé. Israël, c'est terminé. C'est la France, le nouveau peuple. C'est terminé. La grâce messianique, la vocation d'Israël. Le temple que l'Antichrist va construire à Jérusalem. Tout ça, c'est contre le temple. Oui, mais c'est pour ça qu'en France, tous les saints qui ont toujours relevé l'Église, Saint François, Saint Dominique, Saint Thérèse d'Avila, Saint Thérèse de Lisieux, enfin, etc., je peux faire la liste, c'est tous des Juifs de sang. Le nouvel Israël, c'est la France. À un moment donné, sans doute, mais vous voyez, si on pense que les Juifs, ils sont en train de se retrouver sur la terre, c'est la terre d'Israël, et puis Jérusalem, et dit ça, c'est un signe hein, quand même, un signe des temps, et les Juifs reviennent comme ça sur le front, et de Dieu, de la religion mondiale, enfin de l'onction messianique universelle. Les gens qui pensent comme ça, et il faut prendre garde, hein, ce n'est pas vrai. Bien sûr, un jour, avec l'avertissement, en particulier l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse, à cause du nouvel Israël d'ailleurs, je pense, le sceau s'ouvrira et les Juifs qui sont à Jérusalem vont s'engloutir dans le nouvel Israël. On appelle ça la conversion. Hein. Ils vont s'engloutir dans le nouvel Israël. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de ce moment-là? Ce sera très, très, probablement très difficile parce que c'est pour ça qu'ils ont construit un mur énorme. parce qu'ils savent que l'heure arrive, hein, où beaucoup de juifs vont devenir catholiques pour faire produire le fruit au sacrement. Ça donnait à un autre peuple qui lui fera produire son fruit. Le fruit des sacrements. Et donc, bien sûr, on construit un grand, grand mur, c'est-à-dire on fait une espèce d'immense camp de concentration. L'intention profonde, je pense que c'est parce que lorsque les Juifs vont se convertir à cause de l'avertissement pour s'engloutir dans le Nouvel Israël, eh ben, on les tiendra. Et ceux parmi les Juifs qui sont de la synagogue de Satan, comme dit saint Jean dans l'Apocalypse, les tiendront. Il y aura donc un immense camp de concentration, un Auschwitz gigantesque. En fait, ils ont construit un Auschwitz gigantesque pour les Juifs. Parce qu'il ne faut pas que, il faut pas qu'il y ait la manifestation, j'allais dire, de la conversion des Juifs dans le Nouvel Israël. Ça, c'est insupportable pour le démon et pour l'Antichrist, bien sûr. C'est insupportable. Alors, on prépare un holocauste pour les Juifs qui vont devenir catholiques, quoi. Déjà, il y a beaucoup de messianiques. Les Juifs messianiques, c'est à peu près la moitié des Juifs en Israël. Ils sont messianiques. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à être messianique, puisque je viens de vous expliquer que un Juif, ne pas être messianique, c'est débile. C'est débile. Un Juif, il est messianique ou il n'est pas juif, puis c'est tout. Mais pour faire produire le son fruit au sacrement dans le corps, dans le nouveau temple, hein, qui est le corps du Christ, le Saint des Saints, du Beth Amikdash, d'Ab Elohim, Dieu notre Père. Donc faut pas se laisser impressionner. Je crois qu'il faut prier pour eux, parce que c'est dur ce qui va leur arriver. Hein.
On peut pas l'éviter.
Si, tu peux l'éviter, on peut prendre autorité la nuit. Nouvel Israël, c'est nous. Pour l'instant, on s'occupe des fils d'Ismaël. C'est pas mal, savoir que les fils d'Ismaël ont la visite personnelle la nuit de Jésus, rempli, embrasé d'amour pour eux, pour leur dire je te pardonne, je suis là pour faire mes écarts, je m'embrasse, c'est un amour fou pour toi, je te choisis, Dieu te choisit, pour le règne de la paix et de l'amour, hein, sur le ciel et sur la terre. Et là, l'apparition de Jésus du Sacré-Cœur, et puis avec la Sainte Vierge, et puis Hamad derrière aussi, parce que maintenant Hamad est baptisé. Chacun qui reçoit cette visite, c'est génial. Il faut le faire. Le nouvel Israël de Dieu sur la terre, c'est nous. La Jérusalem spirituelle de Marie au milieu des multitudes, c'est nous. C'est facile. Pour vous en convaincre, allez tout simplement, par exemple, en Belgique ou en Hollande. Allez au Canada. Vous verrez que c'est sûrement pas le nouvel Israël de Dieu. Prenez simplement Thérèse Martin. Thérèse Martin, la famille Martin, c'est des Juifs, bien sûr, et Martin. Martin, c'est des Juifs. Prenez simplement cette petite-là. Elle toute seule, mais tu prends tous les autres, hein. Le nouvel Israël de Dieu, tous les disciples du Seigneur, quand on est parti de Palestine, quoi, après la destruction du temple, ou avant même, hein, ils sont allés en France. Hein. Bon, bien sûr, il y a eu aussi quelque part des petites incursions là-bas, vers le pays de Galles. Mais par exemple, ça a donné la famille de Saint-Patrick. Mais aussitôt, dès qu'il a pu, il est revenu en France pendant 25 ans. Parce que c'est le nouvel Israël de Dieu, Saint-Patrick. Et il a converti l'Irlande après. C'est extraordinaire de savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Et on ne se laissera pas impressionner. On ne se laissera pas du tout impressionner. Vous avez été à Jérusalem, vous avez remarqué que ce n'est pas le peuple de Dieu. Il suffit d'aller à Jérusalem pour voir que ce n'est pas le peuple de Dieu.
Ça se voit, quoi.
Parce qu'il n'y a aucune grâce. C'est la tyrannie, c'est l'ambiance d'Auschwitz. C'est déjà l'ambiance d'Auschwitz. Il y a les capots, tout le monde est sous surveillance. Et au premier mouvement, puisque ce sera du jour au lendemain, ils sont dessus. C'est à cause de ça, d'ailleurs, que l'Antichrist a décidé, enfin, le démon, enfin, les mauvais, quoi, ils ont décidé que tout autour d'Israël, les Palestiniens, Gaza, etc., mais aussi l'Algérie, le Maroc, tout, à 300 km de distance, il n'y a pas un seul chrétien, dans les protocoles. Parce que si le jour où Israël, les Juifs se convertissent, comme ça, ils n'ont aucune possibilité de contact avec l'Église, avec les sacrements. Parce qu'il n'y aura plus un seul chrétien dans les protocoles. Il faut supprimer tous les chrétiens à 300 km de distance autour d'Israël, ce qui explique les 47 millions de martyrs depuis 30 ans, des chrétiens dans ces régions. Et là, Sarkozy, qui est en train de s'il est allé là sur la Syrie et sur la Libye, c'est uniquement pour obtenir qu'il y ait le génocide de tous les chrétiens de Syrie, il y a 2 millions de chrétiens, c'est une des dernières poches. Il y a aussi les 9 millions de chrétiens qui sont coptes, qui sont en Égypte, mais là, il faut reconnaître qu'il y a une suspension, il y a quelque chose, il y a un arrêt. Pourquoi ? Parce que vous savez, sans doute, je ne sais pas, moi je n'ai pas suivi, depuis 2 mois, je n'ai pas suivi les informations de cette affaire, mais en Égypte, donc, la Vierge apparaît sur le dôme de l'église. Et ils sont 100, 200 000 par nuit à la voir. Et elle s'intéresse à leur affaire dans leur famille, dans leur. Ce qui se passe chez eux. Ça. Alors, évidemment, ça retarde le génocide. Et c'est pour ça que toutes les billes, Sarkozy les met sur la Syrie. Kadhafi, c'était pourquoi est-ce qu'il a assez occupé de Kadhafi? C'est parce que Kadhafi commençait à circonscrire Benghazi, c'est-à-dire la portion de l'islam dans toutes ces régions-là, la plus cruelle de l'islam, ceux qui disent on n'a pas le droit de tuer un chrétien. Il faut le torturer à mort avant. Et donc Kadhafi, c'est quand même moi je l'ai connu, Kadhafi. J'étais au Niger. Il était passé au Niger, je ne sais pas ce que Kadhafi. Colonel Kadhafi. Un homme très. Il a envoyé une lettre à tous les prêtres, etc., disant dans le Coran, le Verbe de Dieu. C'est Sidna Issa. Ce qui veut dire, dans le Coran, Sidna Issa, Jésus le prophète, c'est le Verbe. C'est un homme d'une. Donc il tenait à lui tout seul, parce qu'il était très bien aimé, hein, Kadhafi, bon, parce que c'est un homme, finalement, contre, on l'a diabolisé, mais en fait, il était très très aimé par tous les peuples d'Afrique, d'Afrique du Nord, quoi. Tous les peuples d'Afrique, oui, d'Afrique. Le Niger, le Tchad, Et lui, il maintenait une paix, une certaine paix, une certaine respect aussi, du Verbe de Dieu sur ceux qui portaient l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, hein, du Verbe. Alors, en le pilonnant, en le détruisant, en donnant toute force, du coup, à ce commando, si je puis dire, diabolique, qui, du coup, va être le ferment dans la pâte, la catalyse du génocide chrétien dans tous les pays d'Arabie. Et c'est le but du poteau debout. Hein? C'était le but de la France. Le but de la France, c'est qu'on puisse enfin être tranquille avec ce génocide des chrétiens de Syrie. Évidemment, il y a l'Égypte. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais tout ça pour comprendre, hein, l'histoire. Il faut comprendre l'histoire. Ce n'est pas un signe positif d'Israël. Ce n'est plus Israël. Ce n'est plus le peuple de Dieu. Il sera donné à un autre peuple. C'est clair. Et donc on comprend ce que les protocoles font. Cette organisation depuis 50 ans, c'est incroyable. C'est une espèce de guignolade invraisemblable entre Israël et les Palestiniens, etc. C'est, et tout le monde comme ça, quoi. On est Palestinien, Gaza, c'est incroyable. Incroyable, tout le monde comme ça. Mais parce que les Palestiniens, en fait, Hamas et compagnie, et les Juifs de la synagogue sioniste, Illuminati, font un seul combat. Il s'agit de liquider tous les Palestiniens chrétiens. C'était leur seul combat. En fait, c'est les alliés. Et la liquidation est désormais pratiquement accomplie. Il n'y a plus de Palestiniens chrétiens. Il n'y en a plus. Et c'était une alliance de feu, de haine et de sang entre les Juifs et les Palestiniens musulmans. Cette gesticulation pour dire il y a une bagarre entre les Juifs et les Palestiniens, c'était uniquement pour qu'il y ait le génocide chrétien de Palestine. Mais pareil pour le reste, toute la géopolitique. Voilà, vous voyez, quand on prend autorité, il faut empêcher ça. Moi, je crois qu'on a on a toute autorité pour empêcher le génocide de Syrie. Alors c'est autre chose, vous voyez, on est quand même, le monde est en feu, ça va aller très vite, hein. Alors c'est pas le moment de se préoccuper, oh, est-ce que je me fais protestant, est-ce que je me fais catholique. Ça n'a rien à voir, peut-être c'était pas un sermon, ça, c'était plutôt une explication d'ordre culturel. Mais la culture, ça sert quelquefois. Surtout la culture juive, ça sert beaucoup.
Pitié, mon Père, pour ce scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Père, pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de sainte Eucharistie. Pitié, mon Père, pour ceux qui est en repentir en la croix glorieuse, qu'ils y trouvent la paix, la joie, oh Dieu, leur sauveur. Pitié, mon Père, pour que ton règne arrive, sauve-les, il en est encore temps, car voici le temps est proche, et voici que je viens.
Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens répandre sur le monde entier les trésors de ton infini miséricorde. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu sans cesse possible, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et est mort, a été enseveli, et est descendu dans l'enfer, le troisième jour ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.